Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, le syndrome GACI, ou calcification artérielle généralisée infantile. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Geneviève Beaujat. Docteur Beaujat, bonjour.
Bonjour.
Docteur Beaujat, vous êtes pédiatre de formation, généticien clinicien au sein du service de génétique médicale de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et praticien hospitalier du centre de référence des maladies osseuses constitutionnelles au sein de la filière OSCAR. Alors pour débuter notre entretien, docteur Beaujat, une question simple et directe. Qu'est-ce que le syndrome GACI ?
Alors, le syndrome GACI, pour Generalized Arterial Calcification Infancy, c'est un acronyme, est une entité génétique très rare, autosomique récessive, caractérisée par la survenue de calcifications au niveau d'une part d'artère, mais également de tissu mou, associé à un rachitisme hypophosphatémique et différentes complications.
Et combien de patients sont concernés en France ?
Alors, on a identifié récemment dans un travail ici, on les rassemblait 8 cas de personnes vivant avec ce syndrome, donc très rare. Probablement, il y en a plus qui n'ont pas été soit diagnostiqués, soit rassemblés dans cette étude. Et ils ont entre 3 mois et plus de 60 ans.
Et comment survient cette maladie ? Quelle est sa physiopathologie ?
Comme nous l'avons cité tout à l'heure, il s'agit d'une pathologie génétique liée à des mutations de deux gènes, un principal qui s'appelle ENPP1 et un qui est également possible qui s'appelle ABCC6. Et donc, il s'agit pour ces deux gènes d'un mode d'hérédité autosomique récessif, donc avec la nécessité d'avoir une mutation ou un variant pathogène sur les deux allèles de ces deux gènes et entraînant un défaut de production du pyrophosphate inorganique et une désorganisation de la minéralisation osseuse.
Et d'un point de vue pratique, docteur Beaujat, quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés ?
Cette entité est associée tout d'abord à des calcifications artérielles et touchant également le cœur. Et c'est ça qui en fait d'ailleurs sa gravité et son très haut taux de mortalité dans les premiers mois de vie, puisqu'on dit qu'à peu près la moitié des cas décèdent avant l'âge de 6 mois. Outre ces calcifications artérielles et cardiovasculaires, il y a également des calcifications qui vont survenir dans différents tissus, des tissus mous, mais également au niveau d'organes comme le foie, le pancréas, également au niveau de la thyroïde. Et signe qui n'est pas très connu, mais qui est pour nous très important dans la reconnaissance chez les tout-petits, des calcifications intra-articulaires. Voilà, donc calcifications artérielles, calcification des organes et des tissus mous, calcification articulaire et avec le temps, chez une petite moitié des patients, va apparaître un rachitisme hypophosphatémique, donc avec une perte du phosphore dans les urines qui va quelque part diminuer ces dépôts calciques dans les différents tissus et vaisseaux, mais entraîner d'autres conséquences, notamment une moins bonne croissance, donc un déficit de croissance et des déformations des membres, comme dans un rachitisme hypophosphatémique par autre cause. On peut noter également dans cette affection des dépôts calciques au niveau de l'oreille moyenne et donc un déficit de l'audition qui peut apparaître avant l'âge de 10 ans. Et enfin, il peut y avoir également dans cette affection des signes neurologiques qui ont été décrits plus récemment, avec notamment une épilepsie qu'on a remarquée chez 10 à 20% des enfants, apparaissant dans la première décade de vie, sans déficience intellectuelle, avec quelquefois les petites difficultés d'apprentissage, mais qui se prennent bien en charge. Et enfin, deux autres signes qui doivent être signalés. D'une part, la survenue de dépôts calciques au niveau de la rétine, avec ce qu'on appelle des striangioïdes, et un risque de trouble de la acuité visuelle si on ne la prend pas en charge. Et enfin, des dépôts cutanés, sous-cutanés, très fins de liseré calcique et qui donnent un aspect en peau d'orange avec quelquefois une perte de l'élasticité, comme on peut le voir dans d'autres pathologies proches et notamment le pseudo-xanthome élastique.
Et justement, donc des symptômes assez larges, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, Le grand diagnostic différentiel, qui est ce qu'on appelle un diagnostic allélique, parce que il y a un chevauchement entre le gâchis et cette entité, c'est le pseudo-xanthome élastique que nous avons cité, qui, en règle, dans sa forme classique, est plutôt une pathologie de l'adulte liée à un défaut de ABCC6 que nous avons cité, également une pathologie autosomique récessive et qui est caractérisée par des dépôts calciques dans différents organes, notamment au niveau digestif et au niveau de certaines artères. Ça, c'est le premier diagnostic et le plus fréquent à discuter. Sinon, on peut discuter également les autres causes de rachitisme hypophosphatémique. Il existe plusieurs gènes aujourd'hui donnant ces rachitismes qu'on dit également métaboliques, avec une perte phosphatée dans les urines. Troisièmement, il faut discuter d'autres causes de calcification hétérotopique, ectopique, comme les calcinoses tumorales, qui sont un groupe de pathologies également d'origine génétique pour une bonne partie, mais caractérisées par une hyperphosphatémie. Alors que là, nous sommes dans le gâchis avec une hypophosphatémie. Donc, c'est un moyen simple de les distinguer. Et la présentation des calcifications est également un peu différente. On peut discuter d'autres causes non génétiques, ou en tout cas non étayées aujourd'hui sur le plan physiopathologique, qui sont les calcinosis universalis et qu'on voit dans des pathologies rhumatologiques à tout âge. Et enfin, on peut également discuter un syndrome très rare qui s'appelle le syndrome Calja pour calcification joint arteries, qui se présente un peu comme le gâchis, mais au niveau des vaisseaux sous-diaphragmatiques et qui est lié à des défauts d'un gène qui s'appelle NT5E, qui joue sur la même voie finalement que ENPP1, le gène majeur du gâchis, mais probablement avec des récepteurs sous-diaphragmatiques, ce qui explique la localisation si particulière de cette entité, donc Calja.
Et alors, vous l'avez abordé un tout petit peu tout à l'heure, rapidement. Quels sont les signes de gravité de ce syndrome gâchis ?
L'atteinte, finalement, la plus sévère, la plus préoccupante et qui va en faire tout le pronostic vital, c'est l'atteinte cardiovasculaire, avec des dépôts calciques qui sont quelquefois vus dès la période anténatale, qui sont importants et qui vont conduire à une défaillance cardiovasculaire avec une hypertension incontrôlée par les thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment la corne d'angle de cette pathologie et qui va déterminer la survie ou non de ces enfants, puisqu'encore une fois, on dit que presque la moitié des personnes connues ayant porté cette entité décèdent avant l'âge de 6 mois. Le deuxième signe qui est très important, c'est la reconnaissance du rachitisme hypophosphatémique qui se prend en charge de façon partielle au moins par des thérapeutiques conventionnelles et qui va entraîner des déformations, une moins bonne croissance, des douleurs. Et ça aussi, c'est un élément important dans la prise en charge et qui, si il n'est pas reconnu, recherché, reconnu et traité, entraîne des complications. Et puis enfin, on peut dire que si la personne n'a pas un dépistage de l'audition suffisamment tôt, il peut y avoir des difficultés d'apprentissage, donc avec des conséquences dans la vie quotidienne, et c'est aussi une complication non négligeable. Voilà. Et puis, excusez-moi, j'oublie, très important, le dépistage des stries angioïdes, donc de ces dépôts calciques au niveau de la rétine, qui, s'ils ne sont pas pris en charge et traités préventivement par du laser, peuvent entraîner des complications parfois sévères de la vue.
Alors, pour conclure notre entretien, docteur Boja, quelle est l'évolution de cette maladie ?
Je crois qu'il faut distinguer d'une part ces formes précoces, sévères, avec un décès parfois en prénatal, à la naissance ou dans les premiers mois de vie, hein, ces fameuses formes catastrophiques, avec pronostic vital engagé, et puis celle qu'on appelait autrefois, c'est un très mauvais terme, avec survie, donc celle en tout cas qu'il ne décède pas, avec l'apparition de ce rachitisme hypophosphatémique ou non, qui va préserver finalement de dépôts calciques très importants. Et l'histoire ensuite est celle de patients ayant un rachitisme hypophosphatémique avec ses complications de croissance au niveau des formations des membres et puis également ses risques sensoriels, audition et vision. Ce sont des personnes parfaitement intelligentes, même si un petit pourcentage des cas ont des difficultés d'apprentissage et une épilepsie. Dans une étude récente, c'est quelques pourcents. Le vieillissement des personnes avec un gâchis est mal connu, puisque nous avons aujourd'hui encore peu de recul sur cette pathologie ultra rare et possiblement mal diagnostiquée ou prise pour d'autres types de rachitisme. Donc, il est important de rassembler les cas et de les mettre dans des circuits qui permettent d'avoir de meilleures conclusions dans le futur.
Eh bien, merci mille fois, docteur Boja, de nous avoir éclairé sur cette maladie très rare qu'est le syndrome Gassi. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!